nous allons pouvoir reprendre pour répondre à une question qui m'a été posée à l'instant. Donc, je rappelle qu'il y aura cours toutes les semaines jusqu'aux vacances de Noël. Évidemment, il n'y aura pas cours pendant les deux semaines des vacances scolaires de Noël et il y aura une séance en janvier. Donc, en tout, ça fera 7 séances de 2 heures. Ce qui correspond à plus que ce que vous avez le droit, puisque les règlements sont de 13 heures et pas de 14 heures. Les obligations de service, comme on dit dans l'administration française, vous avez le droit donc à une heure en plus. Hein? Voilà. Une seconde question qui m'a été posée à l'instant. Pourquoi le Hezbollah, enfin l'Al-Qaïda ne s'attaque pas à Israël? La réponse est parce que le Hezbollah protège Israël d'Al-Qaïda, du djihad international, étant donné que le Hezbollah verrouille le Liban Sud et interdit aux djihadistes, qui sont les ennemis mortels de Hezbollah, d'entrer au Liban Sud. Et aujourd'hui, nous voyons justement en Syrie le Hezbollah combattre directement les djihadistes sur le territoire syrien. Donc, ce n'est pas du tout pour les beaux yeux d'Israël que le djihad international ne combat pas Israël, mais il s'avère que si doctrinalement le djihad international est anti-israélien, puisqu'il lutte contre les juifs et les croisés, en même temps, en pratique, il ne combat que les croisés, ou d'autres musulmans d'ailleurs, de façon plus générale. Et je rappelle, je crois l'avoir expliqué dans un autre lieu, que l'expression « les juifs et les croisés » n'est que la traduction en langage djihadiste de notre discours sur les judéo-chrétiens. Donc, il faut savoir toujours comment se font les transferts de vocabulaire. Donc, ces points de détail étant réglés, si j'ose dire, nous reprenons le cours en juillet 1996, ou le 21 juillet, a lieu un échange de prisonniers et de dépouilles mortelles entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah libère 17 miliciens de l'ALS et remet les dépouilles de 2 militaires israéliens. De son côté, l'État hébreu relâche 45 prisonniers de la prison de Riam, au Liban Sud, détenus officiellement par l'ALS, et les corps de 123 combattants anti-israéliens. Alors, évidemment, pour Israël, c'était une fiction juridique parce qu'Israël refusait d'admettre que les prisonniers libanais de la prison de Riam, qui était une prison assez abominable, étaient détenus par des Israéliens puisqu'ils étaient détenus par les miliciens de l'ALS. Mais quand il s'agissait de faire les échanges, on pouvait sortir des gens de la prison de Riam. L'accord a été négocié par le Comité international de la Croix-Rouge et par des médiateurs allemands. Même si cela n'indique aucun changement dans les positions des uns et des autres, c'est un net succès pour le Hezbollah qui accède pour la première fois au statut de partenaire dans ce genre de négociation. Le Hezbollah promet d'enquêter sur le sort de l'aviateur israélien Ron Arad disparu au Liban en octobre 1986. Et il reste encore 200 prisonniers libanais à la prison de Riam, ainsi que quelques détenus en Israël. Autre signe encourageant, on réussit à se mettre d'accord sur le groupe de surveillance du cessez-le-feu au Liban, présidé alternativement tous les 5 mois par Washington et Paris. Il est mis en place au début du mois d'août. Autre geste de détente, le 23 juillet 1996, le ministre israélien des Affaires étrangères David Levy s'entretient avec Arafat avec qui il fait une conférence de presse commune. Les deux hommes se serrent la main alors que la propagande électorale de la droite israélienne avait utilisé négativement l'image de Peres serrant la main d'Arafat. La rencontre a une importance symbolique avec l'annonce de la reprise du dialogue. Pour la presse israélienne, le Likoud est en train de s'accommoder de la réalité et d'abandonner son rejet comme terroriste de l'autorité palestinienne. Mais il n'est toujours pas question d'une rencontre entre Netanyahou et Arafat. Donc il est temps pour le médiateur américain, enfin pour l'acteur principal du côté américain du processus de paix, Dennis Ross, de se rendre au Proche-Orient pour tenter de relancer les négociations. Il négocie une formule ambiguë avec Assad pour permettre la reprise des pourparlers qui avaient eu lieu à Hawaï, aux États-Unis, sur la base de ce qui avait été achevé dans la piste syrienne, ce qui ne comprend pas l'engagement de Rabin de se retirer sur les lignes du 4 juin 1967, qui se trouve toujours dans la poche des Américains. Pour rappeler, c'est une affaire compliquée. Dans les négociations indirectes par les Américains, puis directes entre Syriens et Israéliens, Rabin avait confié en dépôt, in the pocket, des Américains, un engagement de se retirer sur les lignes du 4 juin 1967 s'il y avait un accord de paix. Mais c'était aux Américains de le sortir à un moment venu de la poche. Et tant qu'il était dans la poche des Américains, il n'engageait pas les Israéliens. C'est un peu compliqué comme processus. Donc les Syriens devaient savoir que l'engagement était dans la poche des Américains, mais les Américains ne devaient pas le montrer aux Syriens. C'est ce qu'on appelle de la diplomatie. Et donc, cette histoire de l'engagement de Rabin était d'autant plus compliquée que Rabin, et ça c'est aussi un autre, disons, problème de fonctionnement du système israélien, le système israélien est complètement perturbé par les fuites dans la presse en permanence. Il n'y a pas un document officiel israélien qui, dans les 8 jours, ne paraît pas dans la presse israélienne, d'autant plus qu'on est dans un système de coalition politique. Et que donc les acteurs israéliens passent leur temps pour saboter les démarches des autres à faire des fuites. Ce qui sera un très grand handicap du côté israélien pour le processus de paix. De ce fait, il n'y avait que 2 personnes, 3, en Israël qui connaissaient l'histoire du dépôt. Rabin, évidemment, et puis Rabinovitch, qui était le négociateur israélien sur le dossier syrien. Mais par exemple, Shimon Peres, qui était le ministre des Affaires étrangères de Rabin, ne connaissait pas le document. Et donc, c'est un document fantomatique qui est toujours resté dans la poche, mais dont on est censé connaître l'existence. Netanyahou tergiverse pendant plusieurs semaines avant de proposer une autre formule qui est rejetée immédiatement par Assad. Avec les Palestiniens, un canal de communication est ouvert entre Dor Gold et Abu Mazen. Le début de normalisation est remis en cause le 25 juillet par un attentat sur la route de Jérusalem qui cause la mort de 2 Israéliens. Par ailleurs, Israël exige la fermeture de 2 bureaux, jeunesse et sport, topographie, chargés d'étudier la colonisation installée à Orient House à Jérusalem. Donc l'Orient House étant censé être un institut de recherche indépendant dirigé par Faisal al-Husseini, mais qui en même temps représente le Fatah sans le représenter à Jérusalem. Abu Mazen croit comprendre de son interlocuteur qu'il y aura une contrepartie concernant Hébron et persuade sur cette base Arafat d'accepter. Comme Netanyahou ne propose rien, Abu Mazen et Arafat estiment avoir été trompés. Le premier se désintéresse des contacts avec les Israéliens, tandis que le second lance une campagne de défense des intérêts palestiniens et musulmans et arabes dans la ville sainte. Le ton monte chez les responsables palestiniens qui évoquent une explosion de violence au cas où l'intensification de la colonisation juive se confirmerait. De fait, le gouvernement Netanyahou supprime les restrictions imposées par l'ancien gouvernement et rétablit les incitations fiscales favorables à la colonisation. La voie est donc ouverte à de nouvelles colonies, alors qu'on s'était contenté de l'agrandissement des existantes sous la période précédente. Les terrains expropriés pour les routes de contournement pourront être ainsi bâtis, ce qui permettra d'étoffer les blocs de colonies pour les négociations à venir. Donc, on comprenait le mécanisme. On crée des routes de contournement pour permettre l'accès sûr des colonies à travers le territoire palestinien. Et puis ensuite, on bâtit le long des routes de contournement pour créer des zones de colonisation homogènes qui prendront le nom de blocs de colonisation. Dans l'immédiat, on autorise l'utilisation de mobile homes pour les colons en Cisjordanie. Seul le roi Hussein s'est montré du côté arabe ouvert au nouveau gouvernement israélien. Il sait qu'il n'est pas question de toucher au traité israélo-jordanien. Il a cherché à tempérer les inquiétudes des autres chefs d'État arabes. Il reçoit Netanyahou le 5 août à Amman. On parle surtout de l'option Liban d'abord, c'est-à-dire un retrait israélien négocié de la zone de sécurité. Netanyahou utilise la formule qu'il est prêt à négocier avec la Syrie sans condition préalable, ce qui est inacceptable pour Damas, qui revendique la ligne du 4 juin, d'autant plus que l'engagement est dans la poche des Américains. D'où un rejet du côté de Damas. Assad, à l'occasion d'un sommet avec Moubarak, répond plus directement « Liban et Syrie d'abord, en même temps et dans la même démarche. » Autrement dit, si vous voulez avoir la paix au Liban Sud, il faut que vous abandonniez le Golan. La position de la monarchie hachémite est affaiblie dans la seconde quinzaine d'août par de violentes émeutes populaires provoquées par la diminution des subventions des prix des denrées de base exigées par le Fonds monétaire international en contrepartie d'une aide financière accordée au royaume pour faire face à un important déficit budgétaire. Tout ça est d'un classicisme éprouvé. Ça arrive à peu près tous les 10 ans en Jordanie. Le roi Hussein répond par des mesures autoritaires au détriment de la façade démocratique du régime et accuse des parties étrangères liées à l'Irak d'être responsables des troubles. Il vise les parties de gauche et décharge les frères musulmans de toute responsabilité dans les événements. Dans les derniers jours du mois d'août, Israël s'inquiète brusquement de la menace syrienne. La Syrie se serait procurée des missiles Scud améliorés par rapport à leurs homologues irakiens de 1991. Les nouvelles fusées pourraient être équipées de têtes biologiques et chimiques acquises récemment auprès de la Corée du Nord. La presse syrienne accuse Israël de chercher à déclencher de nouvelles guerres dans la région pour faire des pressions sur les Arabes et menace de répondre à une attaque israélienne, mais en même temps, on propose la réouverture des négociations sur la base de celle qui s'était arrêtée avec le gouvernement Rabin Peres. Netanyahou tente de dédramatiser la situation en rappelant qu'il n'y a rien de nouveau dans l'armement syrien et que le dispositif antimissile israélien est suffisant. À la mi-septembre, la crise reprend. Elle aurait pour régime un mouvement de relève des troupes syriennes au Liban, interprété par les services de renseignement israéliens comme menaçant pour l'État hébreu. La Syrie serait sur le point de lancer une attaque surprise contre Israël. Les Israéliens envoient des renforts à la frontière nord et procèdent à des manœuvres sur le Golan. Les mouvements militaires des uns et des autres attisent l'attention, chaque partie soupçonnant l'autre des pires intentions. L'Égypte accuse Israël de vouloir mener la région à la guerre et de saboter les intérêts stratégiques de tous les pays de la région, y compris l'État hébreu lui-même. Les Américains sont obligés d'intervenir pour apaiser la situation. À la demande d'Israël, Jacques Chirac intervient directement auprès de Hafez al-Assad, qui dément toute intention agressive contre Israël et prétend ne rien savoir sur une quelconque tension avec son voisin. Il s'avérera plus tard que c'était tout simplement l'officier de renseignement militaire chargé du dossier syrien qui avait inventé la menace syrienne. Comme il n'avait pas de contact en Syrie, il en avait créé de faux, ce qui lui permettait au passage de prendre l'argent destiné à payer ses faux agents en Syrie. Et donc, il avait failli provoquer une guerre avec Israël en inventant des menaces. Ce n'était pas un épisode très glorieux pour les services de renseignement israéliens. Et on a corrigé depuis, mais ça permet de souligner aussi un facteur très important dans les relations israélo-syriennes, qui est la méconnaissance réciproque que les deux pays ont des réalités de l'autre. La répression menée par l'autorité palestinienne contre les terroristes supposés tend à être de plus en plus arbitraire. Des détenus meurent à la suite de mauvais traitements, ce qui provoque des mouvements de protestation populaire organisés par le Hamas. Les affrontements avec la police font un mort et de nombreux blessés. Arafat organise des procès expéditifs afin de juger les policiers coupables de mauvais traitements, ceci afin de désamorcer la colère populaire. Shimon Peres, en tant que leader de l'opposition, tente de rencontrer Arafat, mais Netanyahou s'y oppose et interdit le vol en hélicoptère de Peres vers la bande de Gaza pour des raisons techniques. Mais ça ne permet pas d'interdire une autre rencontre le 22 août entre le président israélien Ezer Weizmann avec Arafat. Ezer Weizmann avait été au Likoud, puis il était passé après à la gauche israélienne. Donc, en plus, à l'intérieur de la droite israélienne, il est considéré comme un traître. De toute façon, c'était un caractère très fort qui prenait toujours des mesures exagérées dans un sens ou dans un autre. Mais enfin, il était plutôt considéré à l'époque comme une colombe après avoir été un faucon. Alors, la tension continue de monter puisque l'autorité palestinienne centre ses actions de protestation sur la défense des Arabes de Jérusalem. Il n'y aura pas d'État palestinien sans Jérusalem. Netanyahou doit comprendre qu'il est stupide d'avoir déclenché la bataille de Jérusalem. Vendredi, tous les musulmans, y compris les Palestiniens en Israël, iront prier à la mosquée Al-Aqsa. Les Américains se précipitent pour calmer la situation. Dans les territoires, la grève générale est fortement suivie. Arafat évoque aussi une reprise éventuelle de l'intifada si on continue de rester dans l'impasse politique. Le 2 septembre, une route de 12 km est ouverte entre Jérusalem et le bloc de colonisation, le bloc Etzion, en Cisjordanie. C'est la route la plus chère jamais construite en Israël, 43 millions de dollars. Elle est interdite aux Arabes, ce qui permet de ne pas mettre des barrages. Les Palestiniens hurlent à la politique d'apartheid, comme le déclare Ariel Sharon lors de l'inauguration de la route. Ça permet de dire qu'en pratique, le bloc Etzion restera une part de l'État d'Israël. Devant le blocage du processus de paix, l'Égypte menace d'annuler la troisième conférence internationale sur le développement économique au Proche-Orient, prévue du 12 au 14 novembre au Caire. Finalement, le 4 septembre, a lieu le premier entretien entre Netanyahou et Arafat. Il dure 75 minutes et comprend une poignée de mains protocolaires plutôt brèves et glaciales, au point que les photographes ont dû exiger de la refaire pour pouvoir l'universaliser, comme vous le voyez sur cette photo. C'est le prix à payer pour Netanyahou afin d'obtenir un entretien avec Clinton lors de sa prochaine visite aux États-Unis, ce qui lui mène évidemment d'être contesté par sa droite. Et Netanyahou menace de renvoyer tout ministre qui protesterait trop fort contre les contacts avec l'autorité palestinienne. Ça vise en particulier Ariel Sharon, qui a mené la fronde contre le Premier ministre. Netanyahou est reçu à la Maison-Blanche le 9 septembre. Il reste inébranlable sur ses positions et refuse toute mesure concrète, en particulier en ce qui concerne Hébron. Finalement, on ouvre avec les Palestiniens des discussions pour compléter l'accord sur Hébron. Pour les Palestiniens, il n'est pas question de renégocier un accord déjà conclu afin de ne pas créer de précédent. On joue donc sur les mots pour faire semblant de progresser. De fait, Netanyahou, maître en relations publiques, laisse croire qu'il est immodéré alors qu'il s'en tient fidèlement aux positions de son programme électoral. Comme Shamir, mais avec plus d'habileté, il est décidé à faire traîner les processus diplomatiques tout en créant le plus possible de faits accomplis sur le terrain. Alors, c'est là où est arrivée l'affaire du tunnel. Netanyahou a fait son service militaire dans les commandos d'élite de l'armée israélienne où s'est illustré son frère, mais il n'a pas exercé de fonction importante de commandement. Après avoir servi 6 ans dans l'armée, dont une part sous le commandement d'Ehud Barak, il est revenu à la vie civile. Comme Peres, il n'a pas la confiance de l'appareil militaro-sécuritaire. Ehud Barak, qui se prépare à succéder à Peres à la tête du Parti travailliste, a une plus grande écoute chez les responsables militaires, puisque Ehud Barak est l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. De surcroît, le programme de réduction budgétaire de Netanyahou touche l'armée, d'où une forte hostilité dans les milieux militaires contre sa personne. Comme le gouvernement est composé de rivaux politiques comme Ariel Sharon et David Levy, il tend à vouloir prendre seul les décisions, s'appuyant sur ses proches conseillers et ne pas consulter les militaires. En Terre Sainte, l'archéologie a une signification politique, en particulier quand elle concerne les lieux saints. Depuis 1967, les Israéliens ont entrepris des fouilles à Jérusalem-Est, fouilles condamnées par l'UNESCO, puisque c'est un territoire occupé, et selon le droit international, on n'a pas le droit de faire des fouilles dans un territoire occupé. On a ainsi découvert un tunnel datant de l'époque asmonéenne, qui avait servi à alimenter un aqueduc. Il est relié à un autre tunnel qui part du mur des Lamentations pour aller jusqu'au quartier dit musulman de Jérusalem. Le tunnel asmonéen passe à proximité du Haram al-Sherif. Dans une finalité à la fois économique, créer une attraction touristique, et religieuse, marquer les droits du judaïsme sur ces lieux, les autorités archéologiques ont voulu ouvrir l'extrémité du tunnel. Mais le Waqf, l'autorité musulmane qui gère le Haram al-Sherif, s'y est systématiquement opposé. Dans la logique de la législation dite du statu quo sur les lieux saints, l'autorité islamique refuse tout empiètement considéré comme une menace pour les lieux saints musulmans. La législation du statu quo interdit de bouger. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un changement au statu quo, on crée de nouveaux droits. Et comme on est dans un jeu à somme nulle, toutes les religions présentes à Jérusalem sont particulièrement sourcilleuses sur la question du statu quo. C'est aussi valable entre les différentes églises chrétiennes, où on se bagarre pour savoir à 10 cm près où doit passer tel chandelier dans le Saint-Sépulcre, par exemple, ou à Bethléem. De plus, les musulmans ont toujours le traumatisme de la destruction par Israël du quartier maghrébin de Jérusalem en 67 afin de créer l'esplanade qui se trouve devant le mur des Lamentations. La fermeture de plusieurs institutions palestiniennes par le gouvernement Netanyahou a contribué à faire monter la tension et l'on a vu Arafat appeler à la bataille de Jérusalem en utilisant le symbolisme de la défense d'Al-Aqsa. Sans consulter les autorités militaires et contre l'avis des services de renseignement, Netanyahou, en liaison avec Olmert, le maire de Jérusalem, décide de vertir du tunnel. Les travaux commencent dans la nuit du 23 au 24 septembre. Immédiatement, des troubles éclatent dans la partie arabe de la ville. Le chef de la police considère avoir la situation bien en main. Netanyahou, de voyage en Europe, déclare « Je suis fier d'avoir pris une décision qui aurait dû être appliquée il y a bien longtemps. » Arafat affirme de son côté que c'est un grave crime contre nos lieux saints. Nouveauté, les télévisions satellitaires arabes récemment créées diffusent les messages des événements. Là, c'est un tournant important de l'histoire du Proche-Orient, puisqu'en gros, les premières satellitaires d'information comme Al Jazeera commencent à émettre à partir de 1995. Et évidemment, toute la situation politique du Proche-Orient va être profondément modifiée par cette information en direct donnée par les télévisions satellitaires arabes d'information qui vont rapidement supplanter les télévisions occidentales comme fournisseurs d'images sur la région du Moyen-Orient. Pour la première fois aussi, les sites Internet palestiniens permettent de trouver une information qui révèle l'ampleur de la colère palestinienne avant l'explosion de violence. C'est là, je vous dis, pour ce cours de cette année, nous entrons dans notre période, puisque maintenant nous avons des sites Internet, des télévisions satellitaires, etc. Nous sommes dans notre univers d'aujourd'hui. Le 25 septembre, Marwan Barouti, le chef du Fatah, en Cisjordanie, organise une manifestation à proximité de Ramallah. Au jet de pierre, l'armée israélienne riposte en utilisant des tirs de balles de métal enrobés de caoutchouc, projectiles potentiellement mortels à 40 mètres. Plusieurs dizaines de jeunes gens tombent grièvement blessés. C'en est trop pour la police palestinienne qui ne peut rester impuissante face aux victimes palestiniennes. Elle tire à son tour sur les militaires israéliens. La violence s'étend à l'ensemble de la Cisjordanie. Le bilan de la journée est de 7 morts et 253 blessés. De Paris, Netanyahou demande au président Moubarak d'intervenir pour calmer la situation. Mais en même temps, il fait de Jérusalem l'enjeu de l'épreuve de force. Je cite « Ce qui est en cause ici, c'est notre souveraineté sur Jérusalem. Nous devons décider si nous sommes souverains ou non. J'ai décidé. » Le 26 septembre, à proximité de Ramallah, c'est de nouveau l'affrontement avec 16 Palestiniens blessés. Près de Naplouse se trouve le tombeau de Joseph, qui est devenu une enclave israélienne en territoire autonome. Les 13 soldats israéliens qui le gardent sont attaqués à coups de pierre et de cocktails Molotov. Ils ripostent par des tirs à balles réelles. Les policiers palestiniens répliquent avec leur Kalachnikov. Une trentaine de soldats de renfort arrivent, mais la petite garnison se trouve encerclée. Une colonne de renfort perd 6 hommes en traversant les faubourgs de Naplouse. Les violences se sont généralisées, y compris à la bande de Gaza. Netanyahou rentre d'urgence à Jérusalem. Jibril Rajoub, chargé de la sécurité en Cisjordanie, réussit à négocier avec les Israéliens l'évacuation du tombeau de Joseph. Le 27 septembre, alors qu'un calme précaire s'établit grâce à l'action concomitante, voire conjointe de la police palestinienne et de l'armée israélienne, s'installe. 3 Palestiniens sont tués et plusieurs dizaines de blessés dans une échauffourée au sortir de la mosquée Al-Aqsa. Le bilan de cette flambée de violence est de près de 80 morts chez les Palestiniens et de 15 soldats tués du côté israélien. Les territoires palestiniens sont encerclés par l'armée israélienne prête à pénétrer en force. Saisi par les États arabes, le Conseil de sécurité vote par 14 voix contre une abstention, celle des États-Unis, la résolution 1073, qui rappelle sans en mentionner le contenu toutes les résolutions pertinentes concernant Jérusalem. L'initiative israélienne est implicitement condamnée, je cite, « demande la cessation immédiate de tous les actes qui ont eu pour résultat d'aggraver la situation et qui ont des effets négatifs sur le processus de paix au Moyen-Orient et le rétablissement de la situation antérieure à ces actes. Le Conseil de sécurité demande que les négociations reprennent sur la base convenue dans le cadre des processus de paix au Moyen-Orient et que les accords conclus soient appliqués dans les délais prévus. » En Israël, Netanyahou tient une conférence de presse en compagnie des responsables des services de renseignement. On accuse Arafat d'avoir manipulé les Palestiniens à propos d'une action israélienne dont la finalité était purement touristique. Mais la question de savoir pourquoi ne pas avoir retardé un moment plus propice et, à l'instar des gouvernements précédents, une mesure aussi potentiellement dangereuse, la réponse est « parce que je n'ai aucune raison de retarder notre souveraineté sur Jérusalem, parce que l'ouverture pratiquée n'est rien d'autre que l'expression de notre souveraineté sur la capitale éternelle d'Israël ». Fin de citation. Comme il n'est pas question au minimum d'accepter de reconnaître une erreur d'appréciation, on fait d'Arafat le responsable de tout. On l'accuse d'avoir instrumentalisé le sentiment religieux palestinien, tandis que dans la même foulée, Netanyahou affirme que ce tunnel touche au roc de notre existence. Fin de citation. Le roc étant l'expression figurée habituellement utilisée pour signifier le mont du Temple. C'est-à-dire que lui aussi utilise les affects religieux. Durant toute la crise, Christopher et Ross ont dialogué par téléphone avec les responsables des deux camps. La question est de savoir qui aura le dernier mot entre Arafat et Netanyahou en ce qui concerne Jérusalem. Clinton met tout son prestige en jeu alors qu'il est en pleine campagne électorale et convoque les intéressés à Washington. Il n'est absolument pas dupe du comportement de Netanyahou qui a manigancé, selon lui, une provocation. Mais le principal est de sauver le processus de paix. Le roi Hussein accepte de s'y joindre, tandis que le président Moubarak délègue son ministre des Affaires étrangères, Amar Roussa. Vous croyez qu'ils vont s'embrasser ? Le sommet se tient du 30 septembre au 2 octobre 1986. Les discussions sont très tendues. Netanyahou refuse de céder sur la question du tunnel, ce qui lui vaut une algarade de la part du roi Hussein. Je cite « Lors du sommet arabe qui a suivi votre élection, je déclarais publiquement qu'il fallait vous donner une chance. J'ai cru que vous aviez besoin de temps. Il apparaît que vous êtes un homme aux fortes convictions idéologiques. J'espère que vous finirez par avoir la sagesse et le courage d'Itzhak Rabin. Jamais je n'étais aussi inquiet pour la région. Néanmoins, le chef du gouvernement israélien ne doit pas apparaître comme celui qui a ruiné le processus de paix. C'est lui maintenant qui a besoin de serrer la main d'Arafat en public, ce qui a lieu le 2 octobre. La seule décision positive est l'ouverture de négociations intensives sur le redéploiement israélien d'Hébron. Le fait le plus marquant durant ces événements a été l'attitude de la police palestinienne qui a rallié les manifestants et a tiré sur les militaires israéliens. Psychologiquement, il lui était difficile de faire autrement en voyant des Palestiniens se faire tuer. Pour les responsables israéliens, la rupture de confiance est totale, mais ils en tirent des conclusions apparemment contradictoires. D'une part, les chefs militaires considèrent que Netanyahou s'est comporté de façon dangereuse et qu'il leur faut intervenir dans le processus de décision afin d'éviter de se lancer dans un processus d'escalade. Ils se posent donc en défenseurs du processus de paix chargé d'empêcher des provocations dangereuses. Ils le font pour des raisons opérationnelles, car engager l'armée dans ce type d'opération se ferait dans un contexte où il n'y a pas de consensus, c'est-à-dire une absence de choix dans la société israélienne. C'est tout le souvenir de la guerre du Liban de 1982. Cela se répercute sur l'efficacité de l'armée qui a déjà du mal à rappeler des réservistes lors des périodes de tension. Certains commentateurs vont jusqu'à évoquer le risque d'un coup d'état militaire pour renverser un premier ministre discrédité, ce qui provoque des démonstrations d'indignation de la part des responsables de l'armée. En tout cas, il est patent que le premier ministre leur reproche de s'être aligné sur les positions du Parti travailliste et d'avoir appuyé les accords d'autonomie avec les Palestiniens. D'autre part, les mêmes chefs militaires doivent préparer l'hypothèse d'un soulèvement armé palestinien en cas d'échec du processus de paix. Dans ce cas, on disposerait d'un consensus national pour l'usage de la force. L'opération Champ de Ronce est fondée sur l'utilisation massive de la puissance de feu. Les principales zones de l'autonomie palestinienne seraient isolées par des unités blindées. On neutraliserait, c'est l'euphémisme utilisé en langage militaire pour tuer, les éléments dangereux des manifestants palestiniens. On pratiquerait des actions de punition contre des cibles de valeur, c'est-à-dire en langage clair, de l'infrastructure civile, en utilisant l'artillerie ou l'aviation. Des opérations de capture ou d'assassinat de leaders auraient lieu. On établirait un blocus économique des territoires palestiniens accompagné d'une rupture sélective des transactions financières. On contrôlerait l'accès des médias au territoire palestinien et on déclencherait une campagne de communication massive pour influencer l'opinion publique locale et internationale. Une fois le consensus acquis, l'usage de la force permettrait d'écraser la révolte palestinienne et de montrer qui est le vainqueur et qui doit s'incliner. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une hypothèse de travail, mais il faut préparer l'armée à l'appliquer. Du côté palestinien, les événements ont rétabli l'image d'un Arafat résistant aux Israéliens et non leurs collaborateurs. Pour un certain nombre de cadres comme Marwan Barouti, c'est la démonstration que l'on n'obtiendra rien sans pression. L'organisation clandestine du Fatah, le Tanzim, est réactivée. Elle doit servir à faire face au Hamas, mais aussi éventuellement affronter l'armée israélienne. Dans l'immédiat, on l'utilisera pour des manifestations de masse pour exiger la libération des prisonniers politiques ou protester contre la création de nouvelles colonies. Arafat encourage secrètement ces activités et autorise l'acquisition d'armes à feu et de l'entraînement au combat des militants du Fatah. Il met aussi en place une commission du dialogue national rassemblant toutes les forces politiques palestiniennes, y compris le Hamas, le djihad islamique et le Front populaire. Les activités des uns et des autres ne passent pas inaperçues. Elles s'entretiennent mutuellement. Les responsables israéliens s'informent des activités du Tanzim et leurs homologues palestiniens soupçonnent l'existence de l'opération Champ de Force. On est là, si vous voulez, dans la mise en place du scénario qui va exploser à l'automne 2000 avec la seconde intifada. Le 6 octobre 1996, commence à Eretz, donc au point passage de la bande de Gaza, les discussions sur la redéfinition de l'accord concernant le redéploiement des Hébron. En présence de Dennis Ross, tandis que Christopher visite successivement Netanyahou et Arafat. La délégation palestinienne est dirigée par Saeb Erekat et l'israélienne par Dov Shomron, un général à la retraite. Un problème de langue se pose. Shomron parlant mal l'anglais, contrairement à Erekat qui a vécu longuement aux États-Unis, un rituel s'installe. Shomron parle en hébreu, que Rajoub, ancien prisonnier, traduit en arabe, puis l'interprète américain traduit de l'arabe en anglais. Rapidement, Ross établit une négociation parallèle et secrète entre Abu Mazen et Amnon Shaak, le chef d'état-major de l'armée israélienne. La question essentielle est de savoir si, comme les Palestiniens le comprennent, le partage de Hébron en secteurs H1 et H2 correspond à un clivage zone A-zone B, ou si les Israéliens conservent un droit de poursuite en zone sous contrôle arabe, et si les policiers arabes n'auront droit qu'à des pistolets et non à des fusils. Pendant que le climat reste très tendu, les manœuvres diplomatiques continuent. Ezer Weizmann rencontre Arafat dans sa résidence de Césarée en Israël. Les deux hommes échangent des messages de paix. Des émissaires israéliens sont envoyés pour calmer le roi Hussein à Amman. Arafat s'entretient avec Shimon Peres, puis reçoit le 15 octobre pour la première fois le roi Hussein à Jéricho. C'est un geste politiquement fort du souverain hachémite, une manifestation très claire de l'acceptation par la Jordanie d'un État palestinien indépendant et une légitimation du pouvoir d'Arafat. Le président de l'autorité palestinienne se rend ensuite au Caire, où il accuse Israël de vouloir établir un régime d'apartheid à Hébron et de ne pas être sérieux dans les négociations concernant cette ville. Denis Ross est présent en permanence dans les discussions sur Hébron. Il semble un moment que l'on soit proche d'un accord, mais ça se révèle rapidement être une illusion. Le diplomate américain multiplie les pressions et les cajoleries sur les intéressés, ayant parfois recours à la menace d'abandonner l'affaire et de rentrer aux États-Unis, où il tente aussi de jouer sur les rivalités de personnes au sein d'une même équipe de négociation. Comme beaucoup de ses homologues, il croit plus en l'interaction d'un certain nombre de personnalités qu'à la nature et à l'importance des enjeux qui sont l'objet des négociations. C'est là la perversion du système diplomatique. On finit par négocier la négociation plutôt que de voir sur quoi on négocie. Pour lui, une négociation se résume souvent à des astuces sémantiques dans la rédaction des textes, usage du passif et de la personnelle plutôt que la voix active, par exemple. Finalement, après 3 semaines de travail intensif, il jette l'éponge à la fin du mois et rentre aux États-Unis. Le président Jacques Chirac entame le 19 octobre une tournée au Proche-Orient par la Syrie. Il se veut le porte-parole des positions européennes. Israël ne veut pas entendre parler d'une médiation française dans le processus de paix et s'en tient au rôle dit de facilitateur des États-Unis, tandis que Damas juge que Paris a son mot à dire sur cette question. En Israël, le 21 octobre, Chirac se prononce en faveur de la création d'un État palestinien, de la restitution du Golan à la Syrie et de l'évacuation du Liban Sud. Le 22 octobre, le président français entreprend une visite privée à Jérusalem-Est, c'est-à-dire sans représentant politique israélien, puisque la France ne reconnaît pas l'annexion de la partie arabe de la ville. Cela comprend les grands lieux saints comme le mur des Lamentations, le Saint-Sépulcre et le Haram al-Sharif. Les Israéliens ont multiplié les mesures de sécurité oppressantes qui ont aussi pour but de limiter les contacts avec la population arabe. La tension monte vite avec l'entourage du président. Ce dernier s'en prend à un policier israélien qui vient de rudoyer un journaliste en lui disant en anglais: vous voulez que je reprenne mon avion et que je reparte en France? Ce n'est pas une méthode, c'est une provocation. Ce « Do you want me to go back to my plane ?» fait le tour du monde et vaudra à Chirac une grande popularité dans le monde arabe, d'autant plus qu'il refuse d'entrer dans le haram sous protection armée israélienne. Il est ainsi accueilli avec un grand enthousiasme populaire à Ramallah. Alors, pour ceux que ça intéresse, je rappelle que nous sommes dans l'ère de l'Internet et que la vidéo représentant l'épisode est disponible sur YouTube, je crois. Donc, vous regardez par les moteurs de recherche et vous avez l'ensemble de l'épisode. Vous voyez, on est maintenant dans l'ère de l'Internet. Bien que le président français n'a fait que reprendre les positions affichées de l'Union européenne, sa tournée proche-orientale n'a pas provoqué un grand enthousiasme en Grande-Bretagne et en Allemagne, où on est soucieux de ménager les Américains et les Israéliens. Néanmoins, le 28 octobre, les ministres des Affaires étrangères des 15 désignent l'ambassadeur d'Espagne à Tel Aviv, Miguel Ángel Moratinos, comme représentant, non, il n'est pas là, si, là. Comme émissaire de l'Union européenne au Proche-Orient, avec mission de contribuer autant que faire se peut à la relance du processus de paix. En Israël, la tension est forte à la fin octobre. On craint un attentat du djihad islamique à l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat de son leader, Fatih Shikaki. Les mesures de sécurité sont renforcées, le bouclage des territoires est réinstauré, mais rien ne se passe sauf d'importants embouteillages de circulation. Netanyahou a même demandé aux États-Unis et à l'Allemagne d'intervenir auprès de la Syrie et de l'Iran pour empêcher un attentat. Au début novembre, Bill Clinton est élu pour un second mandat avec 49,2% des voix contre son compétiteur républicain Bob Dole, 40,7%, et Ross Perot, 8,4%. Mais les républicains gardent le contrôle du Congrès. On annonce le prochain départ de Warren Christopher lors du changement d'administration. Le 10 novembre, un Palestinien meurt dans un affrontement avec l'armée israélienne lors d'une manifestation de protestation contre la confiscation de terres. Moubarak a finalement maintenu la troisième conférence économique du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord qui s'ouvre au Caire le 12 novembre. De très fortes pressions américaines ont été exercées sur lui. Il s'agit aussi de vanter les opportunités économiques de l'Égypte. Mais les Israéliens ne sont plus les héros de la fête. Ils sont traités comme des participants ordinaires et on met l'accent sur les échanges interarabes. Les Palestiniens sont pratiquement absents. Une telle réunion n'a pas beaucoup de sens pour eux quand les territoires sont toujours soumis au bouclage. On enterre les grands projets d'intégration économique régionale et on limite les ambitions à quelques accords très modestes, en particulier en matière de tourisme. En marge de la conférence, Dennis Ross tente une nouvelle tentative pour débloquer la négociation sur Hébron, mais cela ne donne rien. Comme d'habitude, il fait porter la responsabilité sur Arafat. Alors, je vais une citation de Moubarak sur ce dossier, mais je laisse courir. Au début décembre, Dennis Ross est renvoyé au Proche-Orient par décision de Clinton. Il fait la navette entre Israéliens et Palestiniens sans grand succès apparemment, même si la presse évoque périodiquement la signature imminente d'un accord. Le 11 décembre, un attentat fait deux morts chez les colons, une mère et son fils de 12 ans, sur une route de contournement à proximité de Ramallah. Les agresseurs se réfugient dans la ville arabe qui est mise sous siège par l'armée israélienne. L'attentat est revendiqué par le FPLP à partir de Damas. Netanyahou fait l'apologie des colons, les pionniers, les héros de l'époque, à qui il affirme qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour leur avenir. Il assure que les racines du peuple juif sont ici en Judée-Samarie et promet que son gouvernement investira les ressources nécessaires à la survie du peuple d'Israël sur sa terre historique. Je cite, « Notre première réponse à ces meurtriers, ces animaux, est que le peuple juif restera ici, construira ici, vivra ici. Nous nous souviendrons des victimes avec chaque maison que nous construirons et chaque route que nous paverons. » Fin de citation. Il demande l'extradition des coupables dès lors qu'ils seront arrêtés, jugés et condamnés par la justice autonome palestinienne, ce qui n'est pas prévu par les accords d'Oslo. L'autorité palestinienne coopère à l'enquête et arrête les intéressés, qui sont immédiatement jugés par une cour de sûreté, qui les condamne à de lourdes peines, de réclusion à perpétuité, une peine de 15 ans. Étant condamnés, ils ne sont plus extradables en Israël. Les responsables israéliens se montrent sceptiques sur l'avenir de ces détentions, mais les homologues cis-palestiniens répliquent qu'ils aimeraient voir des condamnations semblables pour des civils israéliens ayant tué des Palestiniens. En général, on leur accorde de très larges circonstances atténuantes dans les tribunaux israéliens. De fait, le gouvernement israélien accorde le statut de priorité nationale aux colonies de Cisjordanie, ce qui leur procure toute une série d'avantages fiscaux et légaux. On dit en gros en Israël que Netanyahou accélère le démantèlement de l'État-providence israélien. Les seuls à véritablement encore bénéficier d'un État-providence en Israël étant les colons, à cause de l'ensemble des mesures d'incitation fiscale et autres qui sont prises en leur faveur. Dans ce contexte, Clinton, dans une conférence de presse, déclare que tout ce qui peut prédéterminer les résultats de la négociation ne peut pas contribuer à faire la paix. À la question de savoir si les colonies constituent un obstacle à la paix, il répond absolument, absolument. C'est la formule « la colonisation obstacle à la paix » était celle utilisée par l'administration Bush, le père, et par James Baker. Israël déplore ses propos et en privé, Clinton convient qu'il s'agit là d'un lapsus qui correspond au fond de sa pensée, mais qui peut le gêner dans la poursuite de la diplomatie. Mais on retrouve la même orientation dans une lettre publique adressée à Netanyahou et rendue, elle est livrée à la presse, publiée par la presse le 15 décembre par 8 anciens membres des administrations, tant républicaines que démocrates, des présidents Carter, Reagan et Bush. 3 anciens secrétaires d'État, James Baker, Engelberger et Cyrus Vance, 3 anciens conseillers à la sécurité nationale, Brzezinski, Carlucci, Scowcroft, et 2 anciens négociateurs spéciaux pour le Proche-Orient, Strauss et Fairbanks, rappellent que des initiatives unilatérales telles que la reprise des implantations seraient en totale contradiction avec l'objectif d'une paix négociée et risquent d'effacer les progrès du processus de paix au cours des 20 dernières années. 2 autres anciens responsables de la diplomatie américaine, George Shultz et Henry Kissinger, ont fait savoir qu'ils n'étaient pas en désaccord avec l'esprit de cette lettre, même s'ils ne l'ont pas signée. Et 2 hauts responsables de l'équipe Clinton se sont empressés de déclarer à la presse que le texte cadre entièrement avec la vision de l'administration. Dans sa dernière conférence de presse, le 19 décembre, Christopher annonce qu'il renvoie Dennis Ross au Proche-Orient. Il craint une reprise du terrorisme et presse les Israéliens de répondre aux dernières concessions des Palestiniens non définies. Cela provoque l'irritation de tous. Ross réussit à organiser un sommet Arafat-Netanyahou à Eretz le 24 décembre. On fait des progrès marquants vers une solution de la question d'Hébron, mais il est trop tôt pour conclure. Les deux parties s'acharnent sur les détails. De plus, les Palestiniens demandent un rappel des obligations israéliennes des 3 redéploiements à venir en Cisjordanie, ainsi que d'avoir leur mot à dire dans la gestion de la mosquée ibrahimite, c'est-à-dire le tombeau des patriarches. Quant à Netanyahou, il est exposé aux critiques des ultras de son camp, opposé au principe même d'un accord avec les Palestiniens. Il doit en même temps faire passer le vote du budget, qui comprend d'importantes réductions, d'où des difficultés parlementaires. Les négociations s'intensifient à la fin décembre. Ross pense qu'il est prêt d'obtenir un accord, mais le 1er janvier 1997, un soldat israélien ouvre le feu à Hébron sur une foule arabe, blessant 20 de personnes avant d'être maîtrisé par un de ses camarades. Il est immédiatement classé comme malade mental, bien que son intention manifeste fût d'empêcher la conclusion de l'accord sur Hébron. Une coopération exemplaire en matière de sécurité menée du côté palestinien par Jibril Rajoub permet de limiter les dégâts. Arafat se retrouve en meilleure position pour négocier. Il exige de savoir si les redéploiements israéliens auront lieu en 1997 ou en 2097. Mais Netanyahou refuse de bouger sur ce dossier. Ross organise une rencontre secrète entre les deux chefs politiques et Eretz dans la nuit du 4 au 5 janvier. La presse israélienne en révèle immédiatement l'existence. Puis il n'y a rien de secret en Israël, sauf une chose, le nucléaire. Et la loi israélienne est extrêmement stricte. Si quelqu'un dévoile quelque chose du dossier nucléaire israélien, il est immédiatement mis en prison pour de longues durées à la suite d'un jugement secret. Le premier ministre israélien ne veut s'engager qu'à accomplir les redéploiements avant la fin de la période d'intérim en mai 1999. Ross propose la rédaction d'une lettre du secrétaire d'État américain précisant l'interprétation à donner aux engagements. Et je vous laisse là parce qu'ensuite on va avoir un accord à signer la semaine prochaine.